I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la petite marque Fraîche Mademoiselle. Derrière Fraîche Mademoiselle se cachent Julie et Charline, deux jeunes femmes hyper dynamiques à l'image de leur création. Créations qui sont fabriquées dans la pure tradition française avec de belles matières dans leur atelier parisien au cœur du 2e arrondissement. Leur philosophie, les vêtements Fraîche Mademoiselle habillent les femmes sans entrave et sans diktat. Et chez Chiffon, nous aimons cette philosophie. À cette occasion, grâce au code Chiffon, vous bénéficierez de moins 30% sur toute la collection hiver de Fraîche Mademoiselle sur l'e-shop www.fraichemademoiselle.fr ou allez les voir dans leur jolie boutique située au 32 rue des Martyrs, au cœur du 9e arrondissement. Alors, en cette période de grand froid, faites-vous plaisir.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talon ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume 3 pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victim? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victim? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Qu'est-ce que c'est que l'élégance? Beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à traverser la Méditerranée pour parler de mode avec une jeune femme de 22 ans qui est née et a grandi à Alger dans une famille complètement imprégnée par la culture française. Nejma a été bercée par l'esprit canal, les guignols, Ruquier, Arthur et la météo française. Sa grand-mère, professeure de français, l'a initiée très tôt à découvrir nos auteurs. Sa maman a pour modèle d'élégance Inès de la Fressange. Nejma a quitté la ville blanche et sa famille à 17 ans pour étudier les lettres à Paris. Cet épisode un peu différent des autres nous donne l'occasion de découvrir une autre culture, d'avoir une vision autre de la mode, de parler de la position des femmes à Alger, du harcèlement de rue et de l'art de la débrouille quand on est étudiante à Paris. Bonjour Nejma.
Bonjour Valérie.
Est-ce que cette petite présentation te convient? Je n'ai pas commis d'impair sur ta famille notamment.
Non, franchement ça va.
Ta grand-mère donc était professeure de français ou de littérature française?
Elle était professeure de français.
De français?
Oui.
Et ta maman est médecin?
Oui.
C'est ça, donc tu es issue d'une famille de médecins et ils sont tous à Alger en fait?
Oui, toute ma famille est à Alger, oui.
Toi tu es étudiante à Paris?
Oui.
Qu'est-ce que tu étudies?
Ce moment, j'étudie les lettres. Avant, j'ai étudié l'histoire. Mm-hmm. Puis maintenant...
L'histoire française?
Oui, l'histoire française, oui.
Tu me disais qu'en préparant l'émission, tu as appris à parler français avant l'arabe. D'où vient cette fascination pour la France dans ta famille, qui remonte en plus à plusieurs générations?
En fait, c'est pas vraiment une fascination. Alors, à plusieurs générations... Je dirais, oui, sur deux générations, c'est-à-dire mes grands-parents. Et... Après, c'est pas nécessairement...
Mais toi, t'es la troisième génération, déjà.
C'est vrai que je suis la troisième génération. Mais c'est pas nécessairement une fascination, c'est plus... Je pense qu'on était très imprégnés, en fait, par ça. Après, il y a tout un contexte historique propre à l'Algérie qui fait qu'on est nécessairement imprégné par la France. La France, quand même, était présente en Algérie depuis 1830. La guerre d'Algérie a commencé à 1954. Donc, il y a encore jusqu'à aujourd'hui une forte empreinte. Après, ce que dit Kamel Daoud est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que aujourd'hui la langue française, c'est-à-dire n'a plus ce rapport colonial, etc. C'est vrai parce que au Maroc, en Tunisie, etc., on parle français aussi, une réappropriation, mais c'est vrai que chez moi c'était un peu particulier, quoi.
Paris, c'était même votre destination de vacances familiales, t'y allais à chaque vacances scolaires?
Moi j'y suis pas allée à chaque vacances scolaires, mais c'était plus ma mère et ma tante avec mes grands-parents qui y allaient, oui, tout temps.
Pourquoi c'était... Pour faire du shopping pour, c'était quoi? C'était un vent de liberté c'était,
C'était de tout. Je pense que mes grands-parents étaient totalement amoureux de Paris. Du coup, je pense qu'ils ont voulu faire partager ça à ma mère et à ma tante. Et du coup,
quand elles étaient petites?
Oui, quand elles étaient, même après, en fait, depuis leur très très jeune âge. Mm-hmm. Et en fait, c'était un peu devenu comme notre deuxième ville, je pense.
Et est-ce que tu sais pourquoi ta grand-mère enseignait le français, d'ailleurs?
Ben, elle enseignait le français parce qu'elle a, elle a étudié justement pour faire des études, elle a passé son CAPES, etc. Donc elle a étudié pour faire des études de français, mais je pense que ça s'est imposé à elle comme une évidence, ça s'est pas réellement posé de questions. Elle aimait beaucoup les lettres.
Et les auteurs français?
Oui, et la littérature, elle dévorait des bouquins, elle lisait un livre quasiment par jour, hein. C'était... Donc voilà, et ça allait, c'était très large, hein. Ça allait des grands classiques qu'elle avait lus et qu'elle faisait étudier aussi, à de la littérature contemporaine, à absolument tout. Celle qui m'a fait découvrir d'ailleurs Kamel Daoud par exemple, elle le lisait dans le journal, la presse aussi, tout le temps sur la table.
Tu rêves d'être journaliste?
Oui, non. Depuis très très longtemps, oui. C'est une vocation en fait.
Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est ça qui m'a interpellée. Tu as grandi avec le mythe de la Parisienne, avec une maman qui est médecin et qui a pour modèle élégance, que je disais dans l'introduction, Inès de la Fressange. Alors, pourquoi cette fascination pour Inès?
J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Mais je sais que depuis toute petite, ma mère me parle d'Inès de la Fressange. Bon, plus récemment, Charlotte Casirari.
Ah oui, c'est vrai qu'elle a changé maintenant, la fenêtre crèmerie.
Bah oui, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'elle elle est adepte de la sobriété. Vraiment, elle adore la sobriété. Et du coup, le look en fait, d'Inès de la Fressange, qui aujourd'hui est assimilé à la Parisienne, hein, c'était un modèle pour ma mère. C'était pantalon classique droit, chemise. D'ailleurs, maintenant, je porte énormément de chemise. Bon, pas quand il fait froid.
Oui, ça a une influence sur toi, en fait.
Totalement.
Et ta maman, elle s'habille comment au quotidien? Comme Inès?
Alors, pas exactement comme Inès, mais oui, c'est en fait elle reprend à peu près les mêmes, mais sans mimétisme aucun. Hein. C'est vraiment plus naturellement du monde. Elle a toujours adoré les tailleurs, les chemises, les pantalons taille haute, les pantalons flair, classiques en laine. Donc voilà, ma tante aussi d'ailleurs, petit foulard autour du cou, voilà. Quoi.
Oui, donc ça a une influence sur toi, parce que toi, t'es très pantalon, tu portes toujours des vestes.
Oui, mais en fait, j'essaye de m'en détacher depuis à peu près 2 ans, mais pour moi, une tenue sans veste n'est pas une tenue. J'arrive pas, pour moi, une tenue sans veste n'est pas complète. Il y a quelque chose qui manque, même si on porte un manteau, etc. Du coup, je suis très attachée à mes vestes, j'en ai beaucoup d'ailleurs.
On va en reparler de tes vêtements quand même, on va chiffonner un petit peu, mais plus sérieusement... Plus sérieusement, c'est quand même, chiffon est aussi sérieux, mais tu as grandi avec le Front islamique du salut au pouvoir. Tu étais petite hein, quand ils sont venus au pouvoir, c'est ça?
En fait, j'étais très très jeune. Du coup, j'ai pas vraiment grandi avec, mais je suis née en pleine période.
En pleine période, c'est ça?
En pleine année noire, oui.
Est-ce que cela a eu un impact sur ton éducation?
Alors...
Toi, ta maman est assez libérale, hein, d'après ce que j'ai compris.
Libérale, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par libérale, mais on n'a jamais, je sais pas, on n'a jamais eu ce type d'idée. Ça a influencé mon éducation, peut-être, parce que je fais clairement la différence entre l'horreur et le terrorisme. Et et le côté religieux, etc. C'est ce qui n'ont rien à voir. Et donc dans ce sens-là, oui, peut-être. Mais après ça laisse des séquelles. Mais je pense que ça laisse des séquelles. Ça va pas laisser de séquelles à moi parce que j'ai pas vécu cette époque-là. Mais je pense que ça a grandement impacté le pays.
Tu avais quel âge quand Bouteflika est venu au pouvoir?
Quand Bouteflika est venu au pouvoir, je sais pas, j'étais très jeune.
Encore très jeune. Donc c'est plus ta maman qui pourrait répondre à cette question,
oui,
en fait.
Exactement.
Elle, est-ce que tu sais si ça a eu un comportement, enfin pas un comportement, mais une influence sur sa vie en fait de femme?
Je pense que ça a eu une influence, oui, sûrement sur sa vie, mais sur la vie de toutes les femmes, parce que et de tous les hommes aussi. Les femmes. Parce que l'Algérie a été un des premiers pays à vivre le terrorisme. Le terrorisme qu'on a aujourd'hui, qui est plus largement connue, je pense, après les tragiques événements qu'on a connus dans le monde ces dernières années. Mais quand on grandit, pas quand on grandit, parce qu'elle va grandir dans ça, mais quand on évolue dans un pays où il y a un couvre-feu, où on craint une alerte à la bombe du jour au lendemain.
Toi, tu me disais que tu as connu le couvre-feu, c'était à 19h, c'est
ça ? J'étais très très jeune. Mm-hmm. En fait, je m'en souviens absolument pas. Franchement, je m'en souviens absolument pas. Mais oui, il y avait un couvre-feu. Pendant les années noires, il y avait un couvre-feu. C'était... Les gens marchaient la peur au ventre. Il y a eu des atrocités. Vraiment, il y a eu des atrocités.
C'est-à-dire
l'Algérie est un pays traumatisé par les années noires. Kamel Daoud en parle très très bien. Enfin, je sais que je peux...
Mais on le mettra en lien dans l'interview. Mais la peur au ventre des attentats...
Oui, la peur au ventre des attentats, ça pouvait survenir d'un moment à l'autre. On ne savait pas où, on ne savait pas comment. Du coup, en général, il fallait éviter les places bondées. Les gens se déplaçaient vraiment pour le strict nécessaire. Il y avait une crainte. Et aussi pour les intellectuels, en fait. Mm-hmm. Parce que la première cible des terroristes, ça a été les intellectuels. Donc les médecins, les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui sont décédés en Algérie, qui ont été tués, qui ont été assassinés. Donc oui, ça traumatise.
Toi, ta maman a choisi de rester, par contre.
Oui, dans les années 90. Oui. Mais je pense que la question s'est jamais vraiment posée. Je pense, enfin, on n'en a jamais parlé.
C'est en sens ça que je disais qu'elle était plutôt libérale, en fait. Quand tu parlais du harcèlement de rue, elle rétorque direct, si jamais on vous fait une remarque.
Quand on m'attaque, moi...
Ouais.
Oui, je pense qu'elle rétorquerait quand on est ensemble. Mais après... C'est tellement... En fait, c'est vraiment un phénomène... Bon, ça touche tout le monde, on le voit aujourd'hui, il y a le mouvement MeToo, etc. Mm-hmm. Mais en Algérie, je pense que oui, c'est beaucoup plus présent.
Oui, tu me disais que ça t'agaçait vraiment dans la rue, en fait.
Ah oui, mais c'est horrible.
Aussi bien, ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as raconté, c'est aussi bien des petits garçons que des ados, que des adultes, en fait.
Oui. Mais c'est vraiment tous les âges, en fait. On se fait accoster à tous les coins de rue. On se fait accoster de manière très désagréable. C'est absolument pas galant. C'est de l'agression verbale. Et oui, c'est
tout. Ce que tu entends par agression verbale ?
Agression verbale, c'est... je suis désolée, mais on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux. Alors, ça va 30 secondes. Mm-hmm. Vraiment, ça va 30 secondes. Donc, et parfois, quand on les ignore, on a des personnes qui finissent par nous insulter. Mm-hmm. On a des regards insistants, des regards pervers. On en a marre.
Est-ce que ces mecs-là accostent plutôt les femmes qui sont sans foulard ou toutes les femmes ?
Toutes les femmes. Franchement, absolument toutes les femmes. C'est-à-dire que le fait de porter un voile ou pas n'a strictement aucun impact sur eux. Hein. C'est systématique, vraiment systématique.
Pourquoi ? Parce que la femme est considérée comme inférieure en Algérie ?
Par certaines personnes, oui. Par certaines personnes, très certainement même. Mais après, c'est très difficile. En fait, d'une certaine manière, oui. Enfin, ça pèse énormément sur le regard des hommes, pèse sur les femmes. Moi, je suis une femme, quand je me balade dans les rues, ça pèse sur moi. Et aussi, la femme, alors, n'est pas considérée... Alors, attends, faut que je... Comme inférieure...
Réfléchis, tu peux réfléchir.
Okay. Parce que... faut pas croire non plus qu'on empêche les femmes de sortir, etc. Absolument pas. Les femmes sortent le plus normalement du monde.
Oui, tu me disais qu'il y avait des.
Il y a des personnes, attention, ça sort dans les cafés, etc. Il n'y a aucun souci. En revanche, il y a toujours un regard que je ne saurais pas expliquer, en fait. Mm-hmm. C'est assez perturbant. Moi, oui, la femme n'est pas exactement l'égale de l'homme. Mais après, ça, c'est un peu partout.
Alors, tu m'as quand même dit que les femmes ne doivent pas montrer leurs attributs. Il y a certaines choses qui sont considérées comme très sensibles, comme les cheveux, par exemple. Toi, tu as une très très longue chevelure, donc je peux comprendre qu'on se retourne sur toi dans la rue.
Bah oui, mais c'est pas tant... Après, comme je te disais, il y a des personnes, il y a des femmes qui portent le voile, comme il y en a qui n'en portent pas, et il y en a qui ont des cheveux hyper longs, etc. Mais après, il y a toujours, on se retourne tout le temps sur une femme, mm-hmm. tout le temps. Et après, oui, par rapport à leur leurs attributs, c'est-à-dire même si on peut voilà avoir des femmes qui marchent en débardeur, etc. et tout, il y a pas de souci. En revanche, il y a des regards insistants. Après, c'est très culturel de pas se dénuder. C'est vraiment culturel.
C'est un impératif plutôt social ou c'est pas écrit dans les lois? On a le droit de se trimballer en débardeur si on a envie.
Oui. C'est pas écrit dans, il y a rien dans la loi qui dit faut pas se trimballer en short en débardeur. Il y a eu néanmoins une il y avait eu toute une controverse autour d'une jeune fille il y a quelques années qui s'était présentée à un examen, je pense à l'université, en jupe un peu courte, et elle avait eu des soucis. Mais après, c'est vraiment dans la loi, c'est pas écrit. En revanche, ça sera très social, c'est-à-dire tout ça n'est pas accepté socialement. Mais après, Ça remonte à une tradition. C'est vraiment ancré dans la tradition sociale. Quoi.
Alors toi, quand tu rentres à Alger, tu m'as dit que tu ne t'habillais pas comme à Paris.
Alors ça dépend par rapport à certains comment ça s'appelle ? Ça dépend des vêtements en fait que je porte. Par exemple, à Alger, je préfère pas porter de jupe.
Du tout.
À moins que ce soit une jupe très longue. Mm-hmm. Mais j'ai jamais été jupe longue.
Mais même en plein été, pas de jupe.
Moi, non. Moi, je préfère pas. Après, il y a des filles qui portent des jupes, etc. Mais ça sera jamais. À part à la plage. À la plage, on voit, il y a des personnes de pièces, en débardeur, en short, en jupe. Mais c'est très rare de voir une femme avec. Une jupe assez courte dans les rues. Quoi.
Mais tu m'expliquais, on ne va pas dresser un portrait noir de ton pays.
Pas,
parce que tu m'expliques qu'à la plage, on peut se mettre en bikini, burkini. Il n'y a pas d'interdit du tout.
Non, il n'y a aucun interdit. Mais encore une fois, il y a des regards qui pèsent, en fait. C'est constant. Mmh. C'est-à-dire, comme je disais, quelle que soit la tenue, après, à la plage, oui, trois fois plus, parce que quand on est en bikini, je pense que c'est très désagréable d'aller se détendre à la plage et d'avoir des regards plus que curieux qui te scrutent alors que tu veux juste être peinarde et lire ton livre et profiter du soleil.
Et ces types-là, si tu les envoies bouler, est-ce qu'ils répondent ou là Donc est-ce qu'une femme ne pourrait pas se faire lyncher dans la rue quand même? On n'en est pas à ce point-là.
Non. En tous les cas, moi, j'en ai pas vu, mais ça existe, hein, ça existe. Franchement, ça existe. Récemment, j'ai lu dans la presse, il y a eu le cas d'une comédienne, il y a 2-3 jours, une comédienne algérienne qui s'est faite agresser dans son quartier, qui était en banlieue d'Alger, parce qu'elle était comédienne.
D'accord. Et tu m'expliquais aussi que l'homosexualité est interdite, clairement.
Encore une fois, c'est pas écrit dans la loi, contrairement à ce qui se passe au Maroc, par exemple. Mais néanmoins, je pense qu'il vaut mieux pas que les personnes le sachent, quoi. Pour la personne, il vaut mieux être discrète.
Ouais. Et je reviens à cette jeune femme, cette jeune comédienne qui s'est faite agresser. Est-ce qu'elle a eu un soutien de la presse et
Totalement. Moi, j'ai vu, il y a énormément de personnes qui sont journalistes, etc., qui ont relayé ça, énormément de personnes qui sont comédiens, qui ont relayé ça, qui lui ont apporté un soutien total. Et encore une fois, c'est pas des... Malheureusement, il y a des agressions organisées comme ça par des personnes qui sont totalement fermées d'esprit et fermées à tout dialogue.
C'est l'obscurantisme religieux.
Après, il n'y a pas de, il y a absolument pas de motif religieux.
Pas de motif religieux.
Pour elle, il n'y a pas eu de motif religieux. C'est-à-dire qu'on peut penser que le motif religieux serait implicitement sous-jacent, mais il n'y a pas eu de motif religieux. C'est-à-dire que encore une fois, c'est très traditionnel, en fait. Ça reste très traditionnel.
C'est le poids de la tradition.
Exactement.
Et j'imagine que quand on quitte Alger, ça doit s'amplifier, peut-être, en province, dans la province d'Alger.
Ça dépend, parce que... Après, il y a certaines grandes villes, comme Oran, etc., où, au contraire, c'est... Enfin, Oran, c'est considéré comme la ville de la fête. Mm-hmm. Donc, voilà, les cabarets, c'est très vivant, etc., et tout. Mais ça dépend vraiment des villes. C'est très particulier. Vraiment particulier. Ça dépend. Après, il y a des villes frontalières. Par exemple, moi, j'ai le souvenir, j'étais allée à Tlemcen. C'est très particulier parce qu'on voit... C'est pas très, très loin du Maroc. Et on voit, par exemple, beaucoup plus de femmes imprégnées des tenues marocaines, etc. Mm-hmm. Donc, C'est vraiment particulier. Après,
qu'est-ce que tu appelles tenue marocaine ? C'est-à-dire voilée ou
Voilée ou pas voilée, en fait.
Dans leur façon de s'habiller ?
Dans la façon de s'habiller. Par exemple, c'était... je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas le caftan. Il y a une autre tenue qui n'est pas le caftan. J'ai oublié. Mais en fait... On voit ça au détail de couture, par exemple. Les Marocains utilisent, par exemple, pour la lisière des caftans, etc., une espèce de lisière, en fait, qui s'appelle, par exemple, chifa. Et à Tlemcen, j'avais vu plein de femmes qui avaient des djellabas marocaines avec des chifa, et ça se voyait que c'était typiquement marocain, quoi.
Et cette fascination pour la France, tu me disais que ça touche aussi beaucoup de gens âgés. Oui. Tu me disais qu'il y avait notamment sur le marché beaucoup de contrefaçons de produits de marques françaises.
Mais ça, c'est très...
Et alors, tu peux raconter Lacoste ? Comment ça s'appelle là-bas ?
Alors, il y avait des baskets Lacoste qui s'appellent Locosoto.
Locosoto ?
Oui, Locosoto. Ou Lacosoto, je ne sais plus. Mais c'est comme sur tous les marchés, en fait, au Maghreb. Les Adidas 4 bandes. c'est impressionnant. Les Nike avec le logo qui est un peu
à l'envers,
plus fin, à l'envers, ou le logo un peu plus fin, et des trucs drôles, même pour les parfums, Chanel, etc., Chanel avec un E à la fin, c'est drôle. Enfin, la contrefaçon, il y a un gros, par contre, partout au Maghreb, la contrefaçon a envahi toute l'économie. Hein.
Et le rapport à la France, notamment les filles de ton âge, par exemple, est-ce que tu as des cousines ou des copines qui, elles, sont fascinés par la France ou pas du tout ?
Alors, c'est pas tellement de la fascination, je dirais que c'est une influence naturelle. C'est une influence naturelle parce que...
C'est ce que tu disais en début d'émission.
Effectivement, les gens regardent énormément la télévision française. Je pense dans toutes les maisons, on a les chaînes françaises, mais il y a aussi de grosses influences moyen-orientales. Les influences libanaises, arabes. Je dis bien arabe parce que l'Arabie Saoudite, c'est très différent du Maghreb et on a
Pourquoi?
Tendance à l'oublier. Parce qu'on n'a absolument pas la même culture, on n'a absolument pas la même langue. En Algérie, il faut savoir que 98% de la population parle le dialecte algérien. Dialecte algérien qui est plein de mots français. Je pense que c'est le dialecte le plus riche en mots français au Maghreb. Hein. Donc voilà, et les influences libanaises aussi, on voit notamment dans les mariages et tout, les femmes, les jeunes filles sont très coquettes, même les femmes, elles sont très maquillées, c'est très sophistiqué, quoi.
Elles changent aussi beaucoup de robes.
Oui, oui.
Plusieurs fois de robes lors de la cérémonie.
Il y a la robe traditionnelle propre aux origines, par exemple, du mari, celle propre à ses origines à elle. Il y a parfois il y en a qui portent la tenue algéroise quand elles se marient à Alger parce que voilà, on appelle ça le karakou. Un karakou, c'est magnifique, c'est fait en velours, etc. Bah justement, j'ai toujours remarqué. Enfin, après c'est une remarque personnelle que les collections de Balmain, parfois, mêlant dorure et velours, ça ressemblait...
S'inspire de cette robe.
Totalement. Alors, en fait, ça peut être soit une robe, soit un ensemble avec une espèce de petite veste qu'on appelle karakou, et une jupe très longue ou un pantalon assez en velours. Et Balmain, je trouve que ça ressemble énormément à ça.
Il y a aussi, alors les femmes à Alger, tu me disais qu'elles s'habillent chez Zara, enfin, tu me disais qu'il y a des rues entières, on se croirait à Nice en fait.
Alors le centre-ville d'Alger, oui, parce que c'est des bâtiments haussmanniens, ça donne sur la mer, c'est vraiment magnifique. Et oui, ça ressemble, moi quand je suis allée à Nice, ça m'a énormément rappelé le centre d'Alger. Et après, le prêt-à-porter a inondé Alger en tous les cas. On a Zara, enfin, toutes les marques Mango, etc., toutes les marques de prêt-à-porter.
Quand tu as eu les clés de ton appartement parisien, parce que je rappelle que toute ta famille est restée à Alger, tu as des tantes à Paris, mais... ta maman, ta grand-mère sont encore à Alger. Quel a été ton premier ressenti ?
C'était très, très, très étrange. Parce que du jour au lendemain, on se retrouve livré à soi-même à 17 ans.
Et à Paris ?
Oui, à Paris, oui. Mais je n'ai pas eu de ressenti particulier. Je me suis sentie... Je pense que je me suis sentie grandir d'un coup. Je me suis dit, ah mince, maintenant je dois tout faire.
Et est-ce que tu as changé ton dressing ?
Pas des masses, franchement pas des masses.
Non.
Il y a énormément de pièces que de mon dressing que j'ai depuis belle lurette. Hein. Là, en ce moment, d'ailleurs, je retrouve des choses qui datent du lycée et que je reporte. Mais après, oui, je fais énormément de shopping. Entre-temps, oui, j'ai fait énormément de shopping. J'ai peut-être changé mon look.
Donc, tu collectionnes les vestes.
Oui, totalement.
Alors, tu as changé ton look, c'est-à-dire que tu as acheté des vestes ou alors ça, c'est ton ADN
Les vestes, j'en ai toujours eu. Ça a toujours été les vestes classiques, ça a toujours été mon ADN. Oui, mais après, ce que j'ai acheté, en fait, j'ai changé, disons, les combinaisons de vêtements. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus jean. Maintenant, certes, je porte des jeans, mais j'ai beaucoup plus de pantalons cigarettes, pantalons taille haute, etc.
C'est l'influence de ta maman, là, peut-être.
Totalement, totalement. Je plaide coupable. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai classicisé, en guillemets, je sais pas si c'est...
Ta garde-robe.
Oui, ma garde-robe.
Ouais. Alors, t'as un style classique,
ouais.
Mais tu es quand même passionnée par le rap.
Mais... Totalement, totalement. Mais fascinée. Franchement, j'ai fait mon premier mémoire, j'ai fait sur le journalisme avec Kamel Daoud. Le second, je parle du numérique qui envahit la littérature. Si je pouvais vraiment faire un mémoire sur le rap, je pense que ça serait mon rêve.
Tout en étant habillée hyper classique.
Ah, totalement.
Et quand tu vas à un concert de rap, parce que je sais que tu y vas, tu t'habilles comment ? Est-ce que tu t'adaptes ou
Pas du tout.
Pas du tout, tu restes toi-même.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu suis la mode ?
Oui. Alors, je suis la mode pas dans mes habitudes vestimentaires, mais oui, je me tiens au courant de ce qui se passe. Oui. Et après, par passion, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours croqué. Moi, je voulais être styliste à la base. Donc,
pourquoi tu n'as pas continué dans cette voie ?
Parce que, en fait, quand on grandit, on se rend compte que c'est très compliqué en fait de travailler dans la mode, surtout parce que il y a pas de, après dans les lettres j'ai découvert bien plus tard que c'était pareil, mais il y a pas d'avenir stable. Et quand on veut être indépendante et avoir un métier entre guillemets stable qui assure des rentrées d'argent, c'est pas évident tout de suite en fait.
En plus, la mode parisienne, c'est quand même le règne de l'entre-soi.
Oui.
Comme le journalisme aussi, ça.
Totalement.
Ça, on en avait parlé. Et toi, tu détestes cet esprit communautaire, justement.
J'aime pas du tout. Je pense que énormément de. Après, avec le recul, je vois que ça s'applique aussi au monde de l'entreprise, etc. Mais la mode et le journalisme, je pense qu'il y a un énorme problème parce que les personnes qui travaillent dans ça ne se rendent pas compte qu'à force, ils parlent plus à une audience, ils parlent plus à un public. Il parle à d'autres journalistes, il parle à d'autres spécialistes du domaine, ce qui exclut totalement la personne curieuse qui aimerait s'informer, etc. Il y a certains papiers, on ne va pas se mentir, il y a certains papiers de Vogue, à moins d'avoir fait 6 ans de photographie, c'est très compliqué pour une personne lambda qui se dit « Ah, j'ai envie de lire un papier sur la photographie de mode ou de voir comment tel journaliste a décodé le dernier défilé Balmain ou dernier chez Gucci. » C'est hyper compliqué.
Dès que tu es arrivée, là, tu m'as parlé du défilé Jacquemus.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce défilé-là ?
Ah, bah, c'était la musique. C'était, il y avait du Yarayeh, qui est une chanson très très connue, qui a été reprise par un, deux, trois soleils, Khaled, Fodel et Rachida. Mm-hmm. Et il y avait une chanson aussi, Dana Dana, il y avait que du Rai. Mais j'ai pas compris.
Ah.
J'ai absolument pas compris. Du coup, j'ai vu ça en story sur Instagram. J'étais là, je me suis dit, mais mon Dieu. Mais j'ai pas compris aussi le lien avec la collection de Jacquemus. Mm-hmm. C'est, bon, après, moi, personnellement, je suis pas fan du tout. Après, c'est personnel. Mais j'ai pas compris le lien. J'aimerais bien. Mais lui est fan du Maroc juste avant, après les défilés, il va tout le temps au Maroc, etc. Mais je sais pas s'il fait la distinction.
Donc, entre le Maroc et l'Algérie.
Entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maghreb et le Maroc. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire.
Alors toi, tu te confrontes à autre chose, le coût de la vie parisienne.
Oui.
Tu pratiques l'art de la débrouille étudiante.
Ah, tout à l'heure.
Peux-tu nous parler de tes bons plans ? Tu m'as parlé de deux ou trois boutiques qui avaient l'air intéressantes et qui pourraient intéresser les auditeurs.
Totalement. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas, nécessité d'acheter du neuf pour être bien habillé. Il n'y a pas nécessité d'acheter des pièces à 300 euros pour être bien habillé. Il faut apprendre à trouver, en fait, à chercher, à devenir des petits chercheurs d'or, des petits chercheurs de trésors. Et il y a la boutique, j'ai oublié le nom, il y a les friperies.
Les boutiques, des boutiques solidaires aussi.
Voilà, c'est la boutique solidaire exactement qui est du côté d'Oberkampf et qui propose une sélection d'articles. Ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à la friperie, les vêtements sont nettoyés, pressingués, etc. C'est nickel. Ça coûte beaucoup moins cher. On peut trouver des pièces qu'on trouve nulle part ailleurs. Ça va du Zara à H&M. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce que j'avais trouvé là-bas ? J'avais trouvé on trouve du Prada, du Chloé, etc. C'est des pièces à 20 euros.
Parce que tu n'es pas du tout une fashion addict, finalement, ni une fashion victime. Tu aimes les beaux vêtements.
J'adore les beaux, belles coupes. Je pense que je suis incapable. Si vraiment je passe par un magasin et que je vois que ça me plaît, parfois, franchement, je suis incapable de laisser la pièce. Je me sens très mal en rentrant, la culpabilité m'accule et voilà. Mais non, pour être une fashion victime, pour aller dévaliser le BHV, non, pas du tout. Pas du tout.
Ça t'intéresse pas ou tu trouves ça ridicule ?
Avant, je le faisais. Maintenant, je trouve ça ridicule. Parce que au fur et à mesure, je pense que quand on aime les vêtements, c'est important de se renseigner sur ce qu'on achète. C'est important de se renseigner sur la qualité. La qualité n'a rien à voir avec le prix. La qualité à avoir avec la matière, la qualité à avoir avec les finitions, avec la couture. Et les personnes ont tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à acheter des pièces chez Claudie Pierlot & Co, des chemises en synthétique à 100 euros.
C'est indécent. Voire plus.
Voire plus, ah, totalement. Et c'est indécent déjà pour les personnes qui les fabriquent, parce qu'elles sont payées 1 euro de la journée. Et c'est des gens qui vivent dans une misère totale. Et une misère que malheureusement on entretient sans réellement le savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont absolument pas au courant de ça. Et deuxièmement, parce que les meilleures pièces, les pièces qu'on ne trouvera jamais sur le marché, c'est des pièces qui ont été créées avant, et dans des matières magnifiques, et dont on n'a absolument pas idée, jusqu'à ce qu'on découvre Fripstar & Co, je vous conseille le Fripstar de la rue de la Verrerie, et qu'on se dise, oh mon Dieu, mais c'est le paradis. C'est le paradis. Il y a idem sur des sites type Le Bon Coin. Il y a des personnes qui vendent. Mais il y a des personnes, je pense, qui doivent acheter en masse, qui pour le coup sont des fashion addicts et qui revendent. Mais des trucs qui n'ont jamais été portés.
Alors toi, tu as une paire de lunettes de soleil Saint-Laurent, ouais, que tu as payé
30 euros.
30 euros. Ouais. Maintenant que tu es à Paris, que penses-tu du mythe de la Parisienne ? Est-ce que tu essayes de raisonner ta maman en lui disant non, mais attends, les Parisiennes, elles s'habitent pas toutes comme Inès de la Fressange.
Je pense qu'elle l'a découvert très attristée. Mais oui, totalement. Non, c'est ridicule. Le mythe de la Parisienne est vraiment ridicule. Faut arrêter de... Les Parisiennes, c'est des personnes qui courent partout toute la journée. Donc les talons aiguilles, faut oublier. C'est des personnes qui se prennent le vent, la pluie. Je sais pas, moi je prends pas tout le temps mon parapluie, mais d'arriver chez moi trempée. Je vais pas me balader en marinière et en trench coat. Je pense que ça serait un peu bête. Je mange pas du pain tout le temps. c'est pas mon kiff, alors que je viens d'Algérie où le pain est posé à chaque repas. Donc voilà. Mais non, faut vraiment arrêter. Faut arrêter parce qu'on entretient un mythe qui n'existe pas. Et c'est inconsciemment, alors qu'on vende du rêve à l'étranger, disons que ça serve, je sais pas, pour l'industrie française, etc. C'est vraiment excellent parce que c'est bien. On fait découvrir, je sais pas, peut-être des choses que d'autres personnes ne savent pas. Je sais que les japonaises sont absolument
totalement dingues,
totalement dingues du mythe de la Parisienne. Mais après, non, faut pas appliquer ça à tout le monde quand même.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Ouh. C'est, mince, je me suis pas préparée. Je pense que c'est la sobriété. Je pense que c'était Sacha Guitry Il y avait Sacha Guitry qui disait que l'élégance n'avait rien à voir avec l'économie et tout ce qui avait... Je me souviens un peu de la citation exacte, mais tout ce qui avait attrait à l'économie, qui avait volonté à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du show-off, c'est-à-dire surmontrer des choses qu'on achète à 3 000, 4 000 euros, était vulgaire. Et moi, je trouve ça particulièrement vulgaire de s'afficher, de faire un total look, pas justement qui n'a aucune visée esthétique, mais qui a visé à dire « moi, je m'habille chez Chanel ». C'est totalement absurde. Totalement absurde. Moi, pour moi, c'est vraiment la sobriété.
Où te vois-tu dans 20 ans ?
À Paris, déjà, parce que c'est ma ville. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Je me vois à Paris et j'espère que d'ici là, je deviendrai journaliste.
C'est tout le malheur qu'on te souhaite.
Merci.
Merci, Nejma.
Merci, Valérie.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.